l'homme du 92. Bienvenue. Vous écoutez Championne, l'émission sur le sport féminin. Vous êtes bien sûr à Ligue FM 93.1. Tout d'abord, nous découvrirons ce soir, redécouvrirons une légende de sa discipline, en l'occurrence Megan Rapinoe. Puis nous parlerons également des actualités marquantes du sport féminin en général. Et enfin, nous parlerons de la légitimité des femmes à parler sport. Syndrome de l'imposteur ou autre chose. Et pour m'accompagner ce soir, la motarde la plus rapide de l'Ouest, celle qui fait des une-roue avec un véhicule de 500 kg, l'incroyable Elodie. Est-ce que ça va, Elodie ?
Et ça va super, merci. Et toi ?
Très bien. Bonsoir à tous, auditeurs, auditrices, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons parler de football ce soir. Nous allons donc parler ballon rond, le sport le plus populaire du monde. Et oui, le monde raffole de football, ce sport inventé en 1848 en Angleterre. À titre d'exemple concret, pardon, la finale de la Coupe du Monde 2018, Croatie-France, vous devez vous en rappeler. Tu t'en rappelles, Elodie ?
Ah oui, je m'en rappelle, oui.
Ah, une belle victoire.
Mémorable.
T'étais où, d'ailleurs ?
J'étais sur Paris. J'étais sur Paris en train de festoyer, comme on dit. Ouais, je m'en rappelle très très bien, comme si c'était hier. Franchement, c'était trop cool. Une ambiance incroyable dans les rues, c'était incroyable.
C'est fou ça, à chaque fois qu'on demande, c'est vraiment un endroit, un moment. Et alors, il y a la Coupe du Monde 98, plus pour moi, parce que je suis un peu plus vieux. Mais pour 2018, tout le monde a... D'ailleurs, vous, auditeurs, auditrices, je pense que vous devez vous rappeler de ce moment-là. L'ambiance, elle était comment, du coup ?
Ah, c'était le feu dans les rues. Moi, j'étais rue de Lappe, plus précisément. Donc là où il y a... pas mal de bars, tout le monde était dans la rue, tout le monde rigolait, tout le monde parlait ensemble. Enfin, vraiment une ambiance comme j'ai plus jamais retrouvée à Paris, il faut dire la vérité. Donc non, vraiment une convivialité incroyable, c'était vraiment incroyable comme ambiance.
Non, c'était fou, victoire 4 buts à 2, moi j'étais chez moi, alors pour le coup 98 j'ai profité des Champs-Élysées beaucoup plus jeune, donc là j'ai laissé la nouvelle génération.
Ouais, on a tous marché vers les Champs, on a fini... sur les Champs-Élysées, c'était vraiment incroyable comme...
belle
comme
expérience.
Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Je suis contente de l'avoir vécu.
Ah bah, si vous êtes là en train d'écouter cette émission, je pense que vous aussi, vous avez dû vivre un grand moment en 98 ou en 2018. Et du coup, ce qui est fou, c'est que cette finale a réuni 1,12 milliard de téléspectateurs. Et vous avez sûrement plein de souvenirs de ce moment-là. En tout cas, moi, j'ai sauté au plafond sur le but. En 2022, par contre, au Qatar, beaucoup plus récemment, pour la finale France-Argentine, bon, on ne va pas en parler parce que là...
sujet qui fâche.
Ah, j'ai passé un mauvais moment, un mauvais soir. Ça a réuni 1,5 milliard de personnes devant leur petit écran, ce qui est complètement fou. Donc, attardons-nous 1,5 milliard, parce que ça paraît un chiffre comme ça un peu aberrant, on ne sait pas trop ce que ça représente. Mais il faut savoir qu'1,5 milliard, c'est à peu près la population de la Chine plus de l'Inde qui était devant leur écran.
Waouh.
C'est aussi la population totale de tout le continent africain. C'est 5 fois celle des États-Unis ou encore 22 fois celle de la France. C'est comme s'il y avait 22 fois la France, 22 vous, partout, qui avaient regardé. Donc, le foot masculin, c'est complètement dingue. Ça rapporte vraiment des millions, aussi beaucoup d'audience.
Ah, alors ça soulève les foules.
Voilà. Mais qu'en est-il du foot féminin ? Alors, après tout, quasiment la moitié de la planète est composée de femmes. Environ 49,6% selon l'Institut National d'Études Démographiques. J'ai des sources. J'ai parti vérifier. Mais les audiences. Donc pour la Coupe du Monde féminine qui a eu lieu en août 2023, c'est pas si loin que ça, elle a été organisée sur 2 pays. Ça arrive parfois aussi pour les Coupes du Monde.
La prochaine, si je dis pas de bêtises. Ouais,
la prochaine
masculine, bon. Il me semble que c'est sur c'est Amérique du Nord. Donc,
c'est ça.
États-Unis, Canada et Mexique.
Et Mexique, ouais, il y a carrément 3 pays. Mm. Il y a déjà eu aussi Pays-Bas-Allemagne en euros, garçon, si j'ai bonne mémoire. Donc du coup, pour les filles, c'était organisé en Australie et en Nouvelle-Zélande. La première édition de la Coupe du Monde, elle est regroupée 32 équipes. C'est la première fois qu'on a une édition à 32 équipes, donc pour moi. Donc 64 matchs. 32 équipes, c'est un peu les formules qu'on avait avec les garçons dans les années 2000.
Okay.
Donc on rattrape un peu le retard sur le nombre d'équipes, ce qui est vraiment bien. Ça en fait la Coupe du Monde la plus grande de tous les temps pour les filles, avec une finale Espagne-Angleterre, comme pour l'Euro des garçons. Victoire de l'Espagne 1-0, donc championne du monde. Avec une réussite sur tous les plans, affluence au stade le jour de finale 75 784 personnes, 30 000 spectateurs dans les stades, en moyenne sur les 64 matchs, 3,2 milliards de contenus visionnés sur les plateformes numériques, c'est énorme.
C'est énorme.
Donc là, c'est deux fois le continent africain, c'est 44 fois la France, un délire. Donc du coup, l'audience TV la plus haute qui a été enregistrée, c'est celle pour la Chine, parce qu'il y a eu un Chine-Angleterre, 53,9 millions de personnes étaient devant leur petit écran. La finale, elle, a rassemblé 3 millions de personnes chez nous, mais 13 millions
en Angleterre et 5,5 millions en Espagne. Donc en fait, le truc, qui est la première analyse qu'il y a à faire, que je trouve hyper intéressante, c'est que le foot féminin se regarde, mais qu'il est difficile d'avoir les audiences. C'est-à-dire que je n'ai jamais réussi à trouver l'audience totale.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'études là-dessus, beaucoup moins de calculs. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Bah, parce que si on a tous les chiffres individuels, pourquoi pas avoir un chiffre global, en fait ?
Surtout qu'on arrive à avoir les chiffres pour les garçons, pourquoi on n'aurait pas les chiffres
ouais,
pour les
exactement,
filles
ouais.
Et donc, il y a une espèce d'omerta sur le sujet. C'est assez compliqué. Je n'ai pas réussi du tout à trouver l'information. Par contre, niveau sponsor, ça a cartonné, hein, ça a doublé. Ils sont passés de 6 sponsors à 12. Alors, pourquoi je ris ? Parce qu'en fait, c'est vraiment extraordinaire de passer de 6 à 12. C'est vraiment x2, c'est top. Mais là, encore une fois, au niveau des sponsors, on n'est pas du tout à égalité avec les garçons.
Ah non.
Et pareil, je ne me l'explique pas.
Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement, parce que c'est le même sport. Donc, il n'y a aucune raison qui justifierait ça. Je ne comprends pas pourquoi les sponsors ne suivent pas ce championnat.
C'est ça. Et en fait, le truc qui me taraude encore plus, c'est que même si c'est une mauvaise image, bah, les publicitaires mettre des femmes pour vendre n'importe quoi, des voitures, des yaourts, etc.
C'est vrai.
Là, on a des championnes. L'image du sportif moderne, c'est un peu une espèce d'Apollon qu'on met sur des podiums, etc. On l'utilise aussi en influenceur. Donc, je vois pourquoi des femmes qui sont athlétiques, fortes dans leur sport, qui en plus ont des choses à dire pour la plupart.
Et qui ont du talent.
C'est ça. Je ne comprends pas pourquoi les sponsors n'investissent pas plus, ne serait-ce que par cynisme, puisqu'au final, c'est un peu ça.
Ouais.
Mais là, clairement, il n'y a absolument aucune raison, pour le coup.
Moi, sur le papier, ça coche toutes les cases, donc pourquoi pas signer, je ne sais pas.
Sachant qu'effectivement, on a de la chance en France d'avoir un championnat qui est un des meilleurs d'Europe, avec Lyon et Paris. Donc en plus, techniquement, on devrait être en plus au fait en France de ça.
Mm-hmm.
Alors que, petite anecdote par exemple, quand les Lyonnaises ont gagné la 7e fois d'affilée la Grande Coupe d'Europe, elles ont eu droit à un tout petit encart dans l'équipe, et on parlait du match du PSG qui n'était pas du tout une finale, alors qu'elles ont gagné 7 fois. Donc il y a aussi, je pense, quelque chose médiatiquement à faire là-dessus. Donc historiquement, le football féminin a dû lutter pour exister, c'est le cas, on en parle justement, pour différentes raisons, interdiction, pression sociale, normes hygiénistes, je te jure c'est vrai, contraintes économiques, on vient d'en parler, sponsors. Aujourd'hui les femmes tiennent peut-être leur revanche, le football féminin suscite beaucoup d'intérêt, en tout cas le nôtre, et ça c'est plutôt cool, et j'espère vous aussi, auditeurs, auditrices, que vous irez vous renseigner sur le sujet. Mais aussi idéologique, politique, économique. De jeunes footballeuses toujours plus nombreuses intègrent des clubs, les championnats nationaux se professionnalisent, les compétitions se médiatisent, les investisseurs arrivent. Pour l'instant, c'est d'un point de vue économique que le football féminin, comparé à son homologue masculin, demeure néanmoins un peu en retrait. Mais ça, à mon avis, dans l'avenir, ça va changer. Déjà, question, est-ce que tu regardes du foot, toi, au final ?
Ouais, je regarde un peu de foot. Je ne suis pas une grande férue de foot, ouais. mais je regarde principalement les grands championnats parce qu'ils sont beaucoup plus faciles d'accès.
Oui.
Après, je ne regarde pas des matchs tous les dimanches. mais les grands championnats, ouais, je regarde souvent avec des amis, aussi bien hommes que femmes. Des fois, on se fait des soirées filles où on regarde du foot, ça arrive. Donc ouais, je regarde de temps en temps. Moi, j'aime bien.
Et question comme ça qui me vient, parce qu'effectivement c'est la question que je me suis posée, est-ce que tu regardes aussi du foot féminin ou alors, mais attention, la question c'est pas tu regardes pas, et simplement c'est est-ce que tu t'es posé la question pourquoi tu regardes pas, est-ce que c'est par une quelconque, il n'y a pas assez de retransmission par exemple, ou ça t'intéresse pas du tout, tu vois?
Non, si, moi ça m'intéresse, honnêtement je trouve ça hyper intéressant. Après j'ai appris tardivement qu'il y avait des championnats féminins.
Ah ouais.
Ouais, bon après c'était il y a quelques années déjà, ouais. mais le foot masculin était déjà très très présent, ouais. Et ouais, j'ai appris assez tardivement, donc je m'y suis un petit peu intéressée, comme tu le disais, c'est beaucoup moins médiatisé, les matchs sont beaucoup moins retranscrits sur les chaînes publiques, souvent il faut des abonnements, les Bing, les Canal, etc.
Ouais.
Donc c'est beaucoup plus compliqué à regarder parce qu'on y a beaucoup moins accès, mais oui, je m'y intéresse, je sais que ça existe, je trouve ça hyper cool quand j'ai l'occasion, ouais, de regarder un match, je le regarde, mais c'est un peu trop rare à mon goût.
Ouais, alors si je résume, c'est parce qu'il y a un manque d'informations sur le,
ouais,
sujet.
Ouais, ouais.
Sinon ça t'intéresserait, si je il y a un France-Espagne justement.
Ouais, pour moi c'est aussi intéressant que du foot masculin. Enfin, moi, je ne vois pas la différence. pour moi, le foot, c'est du foot, que ce soit homme-femme, pour moi, c'est le même sport. Donc ouais, je regarderai, carrément même. Okay.
Alors, pour information pour les auditeurs auditrices, la D1-Arkema, donc ce qui est la Ligue 1 en fait française, elle est, les droits ont été achetés par Canal+, donc vous pouvez retrouver ça sur Canal+, mais effectivement, le manque de médiatisation fait que les matchs du foot féminin, et là, je veux bien ton avis là-dessus, sont retransmis le samedi après-midi. Là où les homologues masculins, c'est le samedi soir, c'est le dimanche soir. Ouais, bon, des fois, il y a un match l'après-midi, mais c'est souvent le samedi après-midi. Est-ce que ça, ça serait une barrière pour toi pour le regarder?
Oui, ouais. Les heures de diffusion, ça joue. Moi, j'aime bien regarder, mais comme je disais, je ne suis pas une grande passionnée de foot. Et entre guillemets, faire tourner ma journée autour d'un match, non. Que ce soit masculin, féminin d'ailleurs. Ouais. Donc oui, les heures de diffusion en plein après-midi, clairement, souvent, je suis en train de faire autre chose, quoi. Clairement, je vis ma vie. Donc,
un peu comme tout le monde.
Ouais, clairement. Donc c'est dommage que ce soit diffusé à des heures qui ne sont pas très faciles à conjuguer avec une vie quotidienne, on va
seule
dire.
Seule la Ligue des champions féminines est retransmise par M6. Et là, par contre, et W9, là, tu peux récupérer des matchs à 20h45.
Ouais, exactement.
Et j'espère qu'il y aura un effort fait là-dessus. Hein.
Alors c'est souvent ces matchs-là que je regarde, du coup.
Ouais, voilà, pareil. Ouais. Lyon et PSG en Ligue des Champions. Ouais, alors l'équipe de France, quand je tombe dessus. Tu vois, par exemple, le dernier Euro, j'ai pas suivi tant que ça, mais en même temps, ils ont été éliminés au début du tournoi, donc forcément, j'ai moins regardé. Autre chose qui est importante dans le foot féminin et le foot masculin, qui est aussi un sujet, c'est que les joueurs internationaux professionnels, payés par leur club en tant que salariés, ne reçoivent de leur fédération que des primes de participation à performance. En gros, si vous êtes au PSG, vous êtes payé par le PSG, mais quand vous jouez pour la France, par exemple, vous avez des primes. Des primes qui vont, plus vous gagnez de matchs, plus vous avancez dans une compétition, etc. Mais aujourd'hui, on a un énorme sujet, et c'est d'ailleurs le portrait de Megan Rapinoe en est justement l'idée, c'est le salaire. Il y a peu de fédérations qui ont commencé effectivement à faire en sorte que les salaires soient en égalité. C'est revendiqué par les footballeuses de l'équipe internationale américaine, justement, dont Megan Rapinoe a été vraiment le porte-parole. Et c'est repris après par de nombreuses sélections. Donc en 2017, en Norvège, la fédération a aligné les rémunérations globales des hommes et des femmes. C'était 640 000 euros pour les hommes, 332 000 euros pour les femmes. Voilà. Donc du coup, c'est bien. Ouais. Mais maintenant, ils sont tous au même plan. Ça, c'est bien. En 2013, il y a la fédération néo-zélandaise qui a accueilli la Coupe du Monde, qui a annoncé la signature d'une nouvelle convention collective qui met en place un traitement égal entre les équipes nationales féminines et masculines, même prime de participation, équité des primes de performance, des droits à l'image et de traitement pour les voyages.
Okay.
Parce qu'il y a certaines fédérations qui, évidemment, vont choupiner leur équipe masculine avec les hôtels, les voyages, et les filles, elles ont moins de budget, parce qu'elles rapportent moins.
Waouh.
Ouais. On est en arrière. L'Angleterre, elle, a réussi, ça y est aussi pareil, à faire l'équité. C'est le cas aussi du Brésil, aussi l'Irlande, l'Espagne. Donc clairement, là, ça commence à avancer. Mais véritablement, c'est assez compliqué, cette histoire de salaire.
Même temps, la disparité entre les salaires masculins, féminins est tellement énorme que je peux comprendre que ce soit compliqué de mettre tout le monde sur la même marche. Parce que soit faut faire baisser les hommes et à mon avis ils sont pas prêts.
Non, je pense pas.
Soit faut vraiment monter drastiquement le salaire des femmes, mais l'argent ne pousse pas dans les arbres comme on dit, donc il va falloir aller le chercher quelque part.
C'est ça. Après, ce que je trouve qui est fou, c'est que le foot, ça date de 1848. Les premières ligues féminines, elles sont ironiquement dans les années 20, dans les années 30. Donc c'est vieux. C'est devenu professionnel depuis peu, mais il y a vraiment un problème au niveau du salaire. Alors, l'idée, c'est effectivement, ça ne passe pas à la télé. Donc, si ça ne passe pas à la télé, il n'y a pas de pub. S'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de sponsor. S'il n'y a pas de sponsor, c'est parce qu'il n'y a pas d'audimat, parce que personne ne regarde. Donc ça, c'est l'excuse de base. Mais néanmoins, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis d'accord, ça reste du foot.
Ouais, pour moi, c'est du foot.
Donc, je vois
c'est,
pas pourquoi.
C'est le même sport. Pour moi, il n'y a pas de différence. Et pour avoir vu des matchs... des uns et des autres, il y a de très bons matchs aussi bien féminins que masculins. Il y a des mauvais matchs aussi bien masculins que féminins, il faut le dire. Il y a des matchs qui ne sont pas terribles des deux côtés, mais il y a des matchs incroyables des deux côtés. Enfin, c'est vraiment du beau sport de tous les côtés.
Non, clairement. D'ailleurs, je me permets, si vous voulez regarder du beau jeu, si vous voulez regarder vraiment du football, Si vous en avez marre que lorsqu'un athlète de haut niveau, qui, lorsqu'il se fait taper par un bus, ne bouge pas, mais lorsqu'on lui souffle dessus, il fait des roulades comme au plus rapide qu'un TGV Paris-Marseille, mesdames et messieurs, je vous jure que c'est vrai, et qu'à regarder certains joueurs de foot, bah là, clairement, regardez du foot féminin, vous avez de plus en plus accès à ça. N'hésitez pas, vraiment, il ne faut pas se... Il ne faut absolument pas se priver de ça, surtout si vous aimez le beau jeu. Alors oui, ça va moins vite, c'est vrai. Oui, c'est moins physique, c'est vrai. Mais par contre, si vous aimez la tactique, si vous aimez le foot des années 2000, si vous aimez des passes, des ouvertures...
Il y a une certaine technique voilà. Chez le foot féminin que, à mon goût, qu'on perd un peu côté masculin. Ce que je trouve dommage, parce que c'est aussi ce qui fait la beauté du sport, la technique. C'est du beau foot chez les femmes, c'est du vrai foot malgré ce que certains peuvent penser, c'est vraiment du foot.
Et d'ailleurs, on peut souligner que quand une femme prend un tacle, bah, elle se relève.
Exactement, exactement.
Elle passe pas deux heures
par terre. Problème. Les matchs, ceux que j'ai vus en tout cas, ouais, déjà, il y a moins de coupures parce que bah, forcément, il y a un coup de vent, ça tombe, ça crie. Voilà, chez certains joueurs masculins, ce qui est un peu agaçant à regarder. Et c'est quelque chose qu'on retrouve moins, je trouve, dans le foot féminin. Donc, presque, je préfère regarder le foot féminin. Je trouve que c'est vraiment plus le vrai foot.
Mais t'aurais aimé en faire, toi, en fait ?
Ouais, moi, j'aurais adoré. J'en ai pas fait en club. Ouais. Mais quand j'étais petite, primaire, collège et tout, je voulais tout le temps jouer au foot. Pendant les cours de sport pour certains tournois de l'école où on affrontait toutes les classes de 4e par exemple, toutes les classes, les interclasses on appelait ça, il y avait les garçons au foot et les filles au handball.
Ah oui,
et moi, je demandais tout le temps d'aller au foot. Moi, j'aimais bien. J'ai un petit niveau.
Ça fait plaisir.
J'aimais bien. J'adorais ça. Et je pouvais pas. Je jouais avec les garçons... pendant les récréations, où il fallait que je prouve ma valeur.
Choisissez-moi.
je vous jure, je sais jouer. je pouvais jouer qu'au récré, parce que dès qu'il y avait un petit peu d'enjeu ou dès que c'était pendant les heures de cours, c'était les filles au hand ou au basket et les garçons au foot.
Là, on va faire une petite coupure. On va mettre de la musique, tranquillement. On va vous laisser avec un morceau. On parlera de ce morceau juste après. Et après, évidemment, on va faire le magnifique portrait de Megan Rapinoe. Comment on le prononce déjà ?
Megan Rapinoe. Rapinoe.
Rapinoe. Parce qu'en fait, c'est French ou anglais, chaque sens, c'est pas tout.
Yeah,
Megan
Rapinoe.
Megan Rapinoe.
Yeah, of course.
Yes, of course. Allez, la régie, vous nous mettez le son. Merci beaucoup, la régie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
The trash, get in your cash like I'm fast, like I'm girl. You wanna act like it is. Security codes on everything, on my bracelet, phone don't ever ring. And another one he don't know about. Wish we could switch up the roles, and I could be there. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me, like where you be at? 'Cause I'm out 4 in the morning, on the corner rolling, doing my own thing. Your friends that call when you with them like them. Keep a straight face when you tell a lie. Always keep an airtight alibi. What he don't know won't break his heart. Wish we could switch up the roles, and I could be there. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me, like where you be at? 'Cause I'm out 4 in the morning, on the corner rolling, doing my own thing. Had a thing on the side. I get act like a boy.
was always gone. Hit the sun, beat me home. Told you I was with my crew when I knew it wasn't true. If I act like you, won't come out off in your shoes. I'm messing with your head again. Dose of your own medicine.
What if I had a theme on the side?
Bienvenue à nouveau, auditeurs, auditrices. Vous êtes sur Aligre FM 93.1. Je suis toujours CAD, l'homme du 92. Et nous sommes sur l'émission Championne. Avec moi, toujours Elodie. Ça va, Elodie ?
Super, toujours.
Qui va m'accompagner sur cet épisode sur le football féminin ? Nous allons faire le portrait de Megan Rapinoe. Mais déjà, quelques instants sur cette musique. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce morceau ? Tu aimes bien ?
Ah ouais, j'ai dansé tout du long.
J'espère
un
que vous
grand avez... classique, j'ai adoré.
J'espère que vous avez dansé vous aussi, où que vous soyez d'ailleurs. Alors, pourquoi j'ai choisi ce morceau ? Parce qu'une fois, c'est... pour une fois, c'est moi qui ai choisi. Tout simplement parce que le morceau s'appelle « Like a Boy », fait comme un garçon. Mmh. Et je trouvais que pour le foot féminin, c'était exactement une bonne ref. Alors, le morceau est beaucoup plus engagé, hein. Fait comme un garçon. Elle parle en fait à son amoureux. Elle lui dit « Si les rôles étaient échangés, est-ce que tu serais pareil ? Si c'était moi qui rentrais à 3h du matin, si c'était moi qui y répondais pas, est-ce que tu ferais la même chose ?» Et en fait, c'est vraiment un morceau qui est fait pour... on prend le pouvoir parce que, parce qu'en fait, on est égaux, quoi, tout simplement.
Tout à fait.
Voilà, très joli message. J'aime beaucoup Sierra. Mm. Des bisous si elle nous écoute. Et je suis sûr qu'elle nous écoute, là
bien
où elle
sûr.
Est.
Fan numéro 1 de l'émission.
Ouais, qu'est-ce que tu crois ? On a du budget. Alors... ce soir, nous allons donc maintenant évoquer Megan Rapinoe. Alors, plus qu'une championne, une icône, vous devez sans doute à peu près imaginer de qui on parle. Donc, si vous imaginez une Américaine des cheveux roses et revendicatrice qui fait du football et qui a pris sa retraite d'ailleurs cette année, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit donc de Megan Rapinoe. Légende de ce sport, cette footballeuse dépasse largement le cadre du terrain. Attaquante de génie, hein, clairement, par contre, c'est fou.
Ouais, vraiment, elle est incroyable.
Voilà, à la dernière Coupe du Monde qui avait lieu en France... elle nous a éliminés, nous la France. Je l'aime bien, mais pas trop.
un peu moins depuis ce jour-là.
Bah, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé ce match-là.
Je comprends.
Voilà, j'aurais aimé qu'on ait une petite étoile, ça aurait été cool. Donc, effectivement, Megan Rapinoe est née le 5 juillet 1985 à Redding, en Californie, dans une famille de passionnés de sport. Donc, elle a grandi dans une fratrie de 5 frères et sœurs. Ce qui est déjà fou, mais elle apprend très jeune l'inclusion, puisque ses parents élèveront également 2 autres enfants supplémentaires qui ne sont pas les siens.
Ah, je savais pas, incroyable.
Ouais, famille de 8, vraiment fou. Alors, avec sa sœur jumelle, j'ignorais qu'elle avait une sœur jumelle, Rachael, très joli prénom, elle commence le football très jeune, mais c'est surtout son frère aîné Brian qui l'inspire. Malheureusement, celui-ci tombera dans l'addiction et fera plusieurs séjours en prison. Néanmoins, ce dernier aura une influence majeure sur elle, bien qu'elle ait connu des difficultés personnelles. En gros, son frère va avoir un... Bon, il est toujours vivant, ça va, il va bien. Mais il a eu une vie un peu compliquée. Mais clairement, ça l'a au contraire encore plus motivé à l'inclusion.
Boosté.
Ouais, vraiment. Bah, déjà, je pense que quand tu vis dans une fratrie, 5 frères et sœurs, 2 autres qui ne sont pas tes frères et sœurs de sang, mais tu grandis avec eux, je pense déjà ça te...
Ça forge.
Ouais, ça te met un mindset hyper intéressant. Donc, dès ses années lycée, elle se distingue comme l'une des jeunes joueuses les plus talentueuses des États-Unis. Elle intègre l'équipe universitaire des Portland Pilots, où elle brille rapidement par sa technique et sa vision de jeu. Après ses performances universitaires, elle entame sa carrière pro en 2009 avec les Chicago Red Stars. J'aime bien dire Red Stars.
J'ai vu le petit sourire.
T'as senti ? En ce moment, je suis fort sur l'anglais. Dans la toute nouvelle ligue professionnelle féminine appelée la WPS. Alors, la Women's Professional Soccer, WPS, créée en 2003 et à la suite de diverses ligues féminines créées depuis 1997 aux USA. En France, nous, on a, avec la Fédération Française de Football, depuis 1974, on a une ligue pro de filles, justement. On a des ligues amateurs dans les années 20, années 30, mais en 1974, c'est vraiment professionnel. Aux USA, ça revient plus tard, mais pour le coup, c'est eux qui ont le plus gros vivier en fait, de talent, puisqu'il faut savoir que culturellement, aux États-Unis, lorsque tu es un garçon, tu fais du basket, du baseball, du football américain, mais quand tu es une fille, tu fais du soccer.
Ouais.
C'est vraiment ancré chez eux.
Ouais.
C'est
ouais.
un truc qui est fou. Et donc, c'est pour ça que c'est une des nations les plus fortes de la planète, hein, littéralement.
Ouais, elles s'entraînent depuis qu'elles sont toutes petites, quoi.
C'est ça, c'est assez fou, d'ailleurs. Donc, revenons à Megan Rapinoe. Donc, la nouvelle ligue ne tiendra que quelques années. Déboire a trouvé encore des financements et des diffuseurs. On en parlait en première partie. Et Rapinoe rebondit dans différents clubs aux États-Unis et en Europe. Elle joue notamment pour les Philadelphia Independents en 2011. Le Magic Jack, j'adore ce nom. C'est franchement, c'est pas un pseudo miraculeux de magicien. Magic Jack. Je trouve ça génial. Elle va jouer aussi pour le Sydney FC carrément en Australie en 2011-2012. Elle va aller jouer pour Seattle en 2012. Et elle va jouer, Cocorico, à l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, c'est comme ça que moi j'ai su qui c'était. Pour la première fois, en 2013-2014, où elle évolue dans l'une des meilleures équipes du monde et découvre le football européen. Alors, clairement, Lyon, c'est la référence en France, même si le PSG commence à le talonner. Elle évoluera aux côtés de joueuses internationales françaises, les plus célèbres, même encore aujourd'hui, donc Wendy Renard à la défense, Amandine Henry au milieu de terrain, ma Eugénie Le Sommer que j'adore en numéro 9, qui arrive bientôt fin de carrière, malheureusement, j'ai une larme qui coule. Après, vous pouvez courir sur Internet, hein, voir un peu ses highlights après l'émission, vous allez être choqués tellement c'est fort. Donc, ensuite, elle va revenir au Seattle Reign FC, devenu OL Reign, alors j'explique. En fait, la différence entre les États-Unis et la France, c'est que les États-Unis ont des franchises. C'est-à-dire que ce n'est pas comme nous, des clubs. Vous avez l'habitude, auditrice, auditeur, de connaître par exemple le PSG pour le foot, l'OM pour le plus connu, ou le Real Madrid. Savoir que ces clubs sont très ancrés dans la ville. Aux États-Unis, c'est complètement différent. En fait, c'est une franchise. C'est-à-dire que votre club est une franchise qui peut déménager. On peut la racheter. C'est comme si le PSG demain se faisait racheter par Lens et devenait le FC Lens. Voilà, le club déménage de ville. C'est pareil pour la NBA, le baseball, etc. Et au foot, c'est vraiment très particulier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Lyon, avec Jean-Michel Aulas, c'était tellement fort dans le foot, avait tellement investi dans le foot féminin qu'il a acheté une franchise américaine pour pouvoir faire un second club, mais aux USA.
Okay.
Et donc, elle a intégré ce club parce qu'elle avait joué à Lyon, en gros. Pour que vous puissiez comprendre un peu. Palmarès international. Évidemment, Megan Rapinoe fait ses débuts avec la Team USA en 2006. C'est pas tout jeune. Et elle devient rapidement la pièce maîtresse de l'équipe nationale. 2011, elle est finaliste de la Coupe du Monde. Défaite contre le Japon au final. 2012, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Londres. Avec notamment une performance remarquable en demi-finale contre le Canada. 2 buts, une passe décisive. 2015, victoire à la Coupe du Monde. Et où elle est l'une des joueuses les plus citées pour la conquête du titre. Et 2015, c'est là où voilà, je l'aime moins. 2019.
Où elle perd des points.
Voilà. Un sac légendaire en Coupe du Monde 2019 en France. Alors, elle perd encore plus de points. Où elle termine meilleure buteuse, 6 buts, et meilleure joueuse du tournoi. Megan Rapinoe, c'est 199 sélections, 63 buts, 73 passes décisives. Je ne sais pas si on se rend compte.
C'est des stats dignes des plus grands.
C'est une légende. Ouais. Elle a joué de 2006 à 2024, donc 18 ans de carrière en international, s'il vous plaît.
Ouais.
Elle a pris sa retraite l'année dernière.
C'est une longévité incroyable.
C'est exceptionnel. Peu de joueurs masculins, justement, pourraient se targuer d'un tel palmarès.
Ouais.
Quoi.
Ouais, ouais.
Megan Rapinoe n'est pas seulement une joueuse de football exceptionnelle, elle est aussi une activiste engagée pour l'égalité des sexes, les droits LGBTQIA+, et la justice sociale. Donc clairement, elle fait un coming out courageux, ce qui est peu courant encore à cette époque-là. Donc on est en 2012. Elle révèle publiquement son homosexualité à une époque où peu de sportifs le faisaient, ce qui est déjà
très tabou.
Extrêmement tabou. Elle devient alors une figure majeure pour la visibilité des LGBTQIA+, dans le sport. Ensuite, elle s'est mise en couple avec une légende du basket féminin, Sue Bird. Donc en fait, c'est devenu un couple aux États-Unis très médiatisé et qui combat effectivement contre les discriminations sur tout ce qui est LGBTQIA+. Donc elle s'est très vite engagée.
Ouais, elles ont pris énormément de lumière pour la cause.
C'est ça. Et après, elle a aussi un truc assez fou, je trouve. C'est très américain. S'engager comme ça, tu vois, t'as une t'es dans un sport, t'es dans une industrie, t'as un talent, t'es un acteur, et tu t'engages pour les plus défavorisés.
Ouais, c'est extrêmement américain. C'est très américain.
Ensuite, évidemment, en politique, elle s'est opposée à Donald Trump la première fois. Mm. Bon, pour la seconde, j'espère que...
Okay. On en a moins entendu parler, mais je pense qu'elle était du même avis.
Ouais, clairement. Elle s'est aussi... elle est rentrée aussi pour le Black Lives Matter. Megan Rapinoe est l'une des premières athlètes blanches à s'agenouiller pendant l'hymne national en soutien à Colin Kaepernick pour le mouvement Black Lives Matter. Mm-hmm. Elle déclare « En tant que personne blanche, je n'ai jamais vécu de discrimination raciale, mais je refuse de rester silencieuse. » Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'engage beaucoup sur les combats sociaux.
Énormément.
Et avec un tel palmarès, c'est vraiment top. J'aime beaucoup. En 2023, Megan Rapinoe met un terme à sa carrière de joueuse professionnelle, mais son influence reste intacte. Elle laisse derrière elle une carrière exceptionnelle, des avancées majeures pour les joueuses de football. Ouais, c'est elle qui a demandé l'égalité des salaires, et elle l'a eu.
Ouais.
Et ça, c'est grand mouvement, ça j'ai kiffé. Et un engagement sans faille auprès de la justice et l'égalité. On peut aussi noter qu'elle a un ballon d'or en 2019, après la Coupe du Monde. Qui me reste pas
encore. Voilà. Ça va aller.
Alors, qu'est-ce que tu penses déjà de cette carrière?
Comme on l'a dit, une carrière incroyable, d'une longévité incroyable, des statistiques qui feraient rougir énormément de joueurs masculins.
Bisous Kylian, si tu nous entends.
Bien sûr qu'il nous entend.
Oui, c'est vrai que lui aussi, on a du budget.
Non, elle a vraiment une carrière incroyable, c'est une athlète incroyable. Parce que ce qu'elle fait et l'avoir fait pendant aussi longtemps, c'est vraiment, vraiment pas donné à tout le monde. Surtout dans un pays comme les États-Unis qui est extrêmement concurrentiel dans le sport.
Ouais.
Parce que comme on l'a dit, les jeunes filles ont très peu de choix. Et c'est souvent le soccer. Vraiment dans un pays où il y a autant de concurrence, briller autant, arriver à son niveau, c'est vraiment exceptionnel.
Et du coup, toi, tu l'as découverte comment ?
Moi, je l'ai découverte à une Coupe du Monde.
Ouais.
Où la première, on va dire, Coupe du Monde qui a vraiment été médiatisée, donc il y a
2019. Ouais, voilà, 2019. France, ouais, clairement.
Et là, on a découvert énormément d'équipes, dont les USA, qui ont fait le parcours qu'elles ont fait, qui était top. Et en fait, c'est là qu'on l'a découverte, que je l'ai découverte personnellement. Je connaissais pas du tout l'équipe des USA. Je m'y suis un peu intéressée, donc toute l'équipe est incroyable. On a vu vraiment des choses exceptionnelles sur le terrain. Et ouais, c'est vrai. C'est à ce moment-là que je l'ai découverte.
Mais attends, si j'ai bonne mémoire, Alex Morgan. Alors Alex Morgan, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi une grande joueuse américaine. Mais oui, c'est la Coupe du Monde où Alex Morgan vient alors qu'elle est enceinte.
Oui,
et ouais. Elle danse enceinte dans les vestiaires.
Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça.
Cette image m'est restée marquée.
Des images qui ont fait le tour du monde, le tour de la toile. Ouais, ça avait beaucoup tourné et... mine de rien, ça donne énormément de visibilité. Tout le monde s'est dit, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Qu'est-ce que c'est ? Ça a apporté de la lumière.
Ouais. Est-ce que tu penses que la France a organisé cette Coupe du Monde 2019, ça a fait aussi un boom dans les licences de la visibilité.
Ouais.
Est-ce qu'on ne devrait pas organiser un autre tournoi, en fait ?
Pourquoi pas ? Après, c'est pas moi qui choisis. Hein.
Je sais pas, je te pose la question.
Mais ouais, ça pourrait être hyper sympa maintenant que le foot féminin est un petit peu plus dans la lumière, qui est un peu plus suivi, qui est un peu plus connu, ça pourrait amener pas mal de monde dans les stades, qui avait peut-être pas en 2019, parce que voilà, on a tendance à oublier, mais ça remonte à quelques années.
Ouais, c'est vrai. Ça
a quand même bougé ces dernières années, donc ça pourrait être, je pense, hyper intéressant, et moi, je pense que j'irai voir un match, si je peux.
Alors, petit jeu. J'ai pas de jingle, mais j'avais envie. Alors, je te pose une question, tu me dis si c'est vrai, si c'est faux. D'accord ?
Okay.
T'es prête ?
Je suis prête.
À vous aussi, auditeurs, vous pouvez jouer. Hein. Aucun problème. Alors, attention. Avant 1967, et la participation polémique de Catherine Switzer, les femmes ne pouvaient pas courir car on croyait aux USA que leur utérus pouvait tomber si elles couraient. Vrai ou faux ?
J'ai envie de dire faux, mais...
C'est les États-Unis.
C'est les États-Unis, tout est possible. Non, je veux dire faux quand même.
Tu dis faux ?
Ouais.
Attention, les auditeurs, je vous laisse encore une seconde. C'est vrai.
Ah,
c'est totalement vrai.
Ah là là, c'est aberrant. Ouais.
Archi vrai. Avant 1967, les Américains pensaient que si une femme courait, elle pouvait perdre son utérus sur la rue, donc c'était interdit de faire du marathon.
Je suis désolée, je ris, mais waouh, d'accord. Ok, ah ouais. Non, mais c'est parce que je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou vraiment des excuses bidons, j'ai envie de dire, pour trouver des excuses pour ne pas accepter les femmes dans le sport, mais je trouve ça aberrant.
Non, c'est aberrant, fou. Et en fait, c'est grâce à son coach qui ne voulait pas qu'elle court et son petit ami qui en fait font office de garde du corps. Et il y a une photo très célèbre de Catherine Switzer où en fait le jury, quand il la voit courir, essaie de lui arracher son dossard.
Oui.
Et aujourd'hui, elle court encore.
Ouais, je me rappelle de cette image en noir et blanc. C'est une image
iconique.
Qu'on voit encore de nos jours dans les livres d'histoire. Mais il me semble que j'avais vu ça à l'école. Ouais.
Oh, c'est ouf.
Incroyable.
Du coup, on va envoyer un morceau de musique et ce morceau est dédicacé à Catherine Switzer et toutes les personnes qui pensaient qu'une femme, si elle court, son utérus tombe par terre. Voilà.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bienvenue à nouveau sur 93.1. Je suis toujours Cad, l'homme du 92. Vous êtes sur l'émission Championne qui parle de sport féminin. Et j'ai l'honneur de recevoir une motarde, une guerrière de la route. Élodie, est-ce que ça va ?
Ça va toujours. Super.
Toujours en forme ?
Ouais, je passe un super bon moment.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah, ça me fait plaisir. Alors maintenant, dans cette troisième partie, on va papoter. Ça va être encore plus cool. Bon, après, comme vous avez pu voir, auditeurs, auditrices, l'émission est cool. C'est chill. On prend son temps. On apprend des choses. Et on vient d'écouter Aretha Franklin, le grand morceau célèbre, Respect.
La grande Aretha.
Ah oui, pardon, la grande Aretha. Bah, ce morceau, il t'inspire quelque chose, toi ?
Moi, ce morceau, ça a toujours été la joie. Ouais. Vraiment, on ne peut pas écouter ce titre et être triste. C'est impossible, vraiment. Si ça ne va pas, on écoute Aretha et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça, le fun, la joie, le soleil. C'est... ouais.
Ouais, pareil, pour moi, c'est quelque chose de très, très entraînant, avec beaucoup d'énergie.
Ouais, exactement. Vraiment.
Et je le dédie évidemment à Catherine Switzer, qui elle aussi, du haut de ses 90 ans, écoute cette émission.
Tout à fait.
Alors, ce soir, on a du budget. Chaque partie, il y a un invité de l'extérieur qui nous écoute. Ça, c'est bon. Alors, on va papoter évidemment, et disclaimer, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas sociologue, mais on va partager des points de vue, des expériences. Et là, on va parler de la légitimité des femmes dans le sport. Parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, petite introduction sur le sujet. Cette émission parle de sport féminin. Et le truc, c'est que je me suis aperçu que de demander à des femmes qui font du sport de venir en parler, c'était plus compliqué que j'imaginais.
Ouais, ça m'étonne pas.
justement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. C'est-à-dire que j'ai des femmes qui vont, par exemple, une amie, son profil était intéressant, elle fait du marathon, la fille tape 20 km tous les week-ends. C'est beaucoup plus que moi ou beaucoup de gens. Qui...
C'est plus que moi en une année.
Voilà. J'en ai d'autres qui font du vélo aussi, pareil. Ouais. J'en ai une autre qui fait de l'équitation. Et en fait, à chaque fois que j'ai eu des propositions et leur demandé de venir, elles m'ont dit, je ne me sens pas légitime. Est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur ? Autre. Et en fait, je me suis dit, ce serait bien qu'on se questionne sur ça. Parce que, et après je termine et je te laisse la parole, j'ai l'impression qu'on a confisqué le sport. Tu vois, comme le foot ça appartient aux garçons, le sport c'est aux garçons, et donc les filles ne se sentent pas légitimes de discuter d'une activité qu'elles font, même en amateur. Professionnel c'est encore un autre sujet, mais en amateur déjà, parce qu'en fait elles pensent ne pas pouvoir en parler alors qu'elles font déjà plus de sport que la plupart des mecs qui, comme moi, se permettent de donner des avis par exemple sur le foot. Je regarde un match de foot, je suis tout à fait légitime à parler de foot, alors que la dernière fois que j'ai joué au foot c'était en 2000. en licence, c'était en 97, tu vois. Mm-hmm. Et moi, ça ne me pose pas de problème, en fait, ouais, de discuter de ça. Donc, moi, j'aimerais bien ton avis déjà là-dessus. Hein.
Bah ouais, je pense qu'il y a un certain blocage vis-à-vis des femmes. Déjà, il faut savoir que pour beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, même sans genrer, il y a des sports dits de filles et des sports dits de garçons. Je ne sais pas pourquoi. Tu me regardes avec de grands yeux, c'est pas moi qui fais les c'est pas moi qui fais les bras. Je ne sais pas pourquoi il y a une telle différence entre les deux. L'histoire a prouvé que aussi bien un homme qu'une femme pouvait faire n'importe quel sport à des niveaux différents, en amateur comme tu disais, en professionnel. Donc je sais pas, même toi, ton avis en tant qu'homme, comme tu le disais, enfin, je ne comprends pas pourquoi il y a une telle timidité presque de la femme de parler de sport, c'est alors qu'il y a certaines femmes qui excellent, même en amateur, qui excellent dans leur sport, qui ne veulent pas en faire leur métier, qui ne veulent pas passer en pro, mais qui sont vraiment, vraiment fortes. Pourquoi ne pas en parler ?
Moi aussi, c'est...
Vraiment, c'est la question.
Ça m'interloque, tu vois. Par exemple, tu vois, c'est très bien que tu dis qu'il appartient aux filles-garçons. Par exemple, la boxe, pendant très longtemps, c'était un sport de garçons.
La danse, pendant très longtemps, ça a été un sport de filles.
Et quand on regarde les Jeux Olympiques, bon, voilà. J'ai envie de dire, vous avez vu les Jeux Olympiques en 2024 tous. C'était à Paris, c'était magnifique. Si vous regardez la boxe, les filles... Moi, j'aimerais jamais me taper avec une boxeuse professionnelle.
Ah ouais, non.
Elles ont un level de dingo.
Ah oui, non.
Donc, je suis d'accord qu'il y a les barrières tombent, mais en même temps, t'as ça. Et moi, alors en tant que garçon, je trouve ça méga dommage. C'est-à-dire que nous, on a une arrogance, une prétention à parler de n'importe quel sport, n'importe quand, n'importe comment, alors que des fois, on n'en a jamais pratiqué. Exemple, la dernière fois que j'ai fait du basket, c'était au collège, donc c'était entre 90 et 95. Je regarde la NBA, je suis capable de critiquer la NBA, d'accord ? La NBA, c'est des mecs qui font 2m30, pas du tout mon gabarit, ok ? C'est des mecs qui jouent vraiment, ouais, même d'ailleurs la Ligue française, dédicace à l'ESN Nanterre, des bisous, c'est des tueurs.
Qui nous écoutent, bien sûr.
Voilà, donc, en fait, je suis pas légitime d'en parler en vérité.
Et
pourtant,
que...
je vais pouvoir réussir à en discuter longuement avec quelqu'un sans aucun, mais alors aucun tabou.
Ouais, mais je pense que c'est aussi... une question d'éducation, presque. Ouais. En fait, quand on est une petite fille, on nous répète toute notre vie qu'on est des petites choses fragiles.
Ah, c'est pas faux.
Tu vois ? Qu'on est des princesses, qu'on a, voilà, on grandit avec les Disney, par exemple, où toutes les figures féminines que l'on voit, ou que l'on voyait en tout cas quand on était plus jeune, maintenant ça change dans les nouveaux formats, c'est que la femme est une petite chose fragile. Il faut en prendre soin. Il faut la mettre dans un écrin. Et une femme, ça ne se salit pas, ça ne se fatigue pas, ça ne transpire pas. Et je pense que c'est dans cette éducation-là où on nous répète toute notre vie, fais attention, tu sais, tu dois être jolie, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et bah quand on grandit et qu'on prend une certaine indépendance vis-à-vis de notre caractère, de vraiment la personne qu'on devient en grandissant, on a toujours cette petite voix dans la tête qui nous dit « Ouais, mais t'es pas censé faire ci, t'es pas censé faire ça. »
Ok.
Tu vois ? Je pense que ça joue, je dis pas que c'est 100% des cas, mais je pense que ça joue énormément. Pour en avoir vraiment discuté autour d'un verre, entre guillemets, avec des copines, c'est vrai que c'est souvent, il y a une petite part de ça.
C'est super intéressant ce que tu dis, et j'avoue, ça me... ça me fait réfléchir aussi sur ce sujet-là.
Alors que vous, les hommes, par exemple, pour faire vraiment la passerelle entre les deux, bah, toute votre vie, on vous dit que vous êtes des guerriers presque.
Ouais.
C'est voilà, t'es un garçon, c'est toi.
Tu dois pas pleurer.
Voilà, tu dois pas pleurer, c'est toi l'homme de la famille. Ouais.
Pilier.
T'es grand, t'es fort. Enfin, toute votre vie, on vous répète que vous êtes grand, fort, intelligent. Ouais. Et plus encore. Alors que nous, les femmes, je prends une grande généralité, hein, on nous dit presque l'inverse.
Ouais, non,
et je pense que ça joue dans le développement après d'adultes.
Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que là où je suis d'accord, c'est que tout le monde a une maman, et tout le monde sait à quel point les mères, elles sont solides.
Mmh, ouais.
Au contraire, elles ne sont pas des petites choses fragiles. Hein.
Non, c'est même souvent le pilier de la famille.
Bah oui, et tout le monde a une mère, plus ou moins avec des problèmes relationnels ou pas, et, ou alors vous avez des exemples avec vos tantes, vos grand-mères aussi.
Oui, une figure maternelle
voilà,
en tout cas.
Voilà, exactement.
Une mère, mais
et
une
en fait,
bah,
elles sont loin d'être fragiles.
Ah non,
très très loin. Donc du coup, c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Et ce qui est vrai à travers le sport, d'ailleurs je rebondirais même sur la figure, comme tu disais, il faut des figures pour être légitime entre guillemets. Bah, les journalistes sportives, maintenant ils commencent à en avoir, mais pendant très longtemps il n'y en avait pas.
C'est vrai.
Et il y a aussi ça que j'ai beaucoup aimé sur les Jeux Olympiques, je ne sais pas si tu as regardé l'escrime.
Oui, j'ai un peu regardé l'escrime.
Ouais. Bah, il y avait une ancienne escrimeuse qui commentait avec le consultant. Donc, c'est souvent le duo qu'on fait, c'est-à-dire quelqu'un qui a pratiqué le sport et quelqu'un qui est journaliste, pour pouvoir commenter du sport en général. Elle m'a fait rêver.
Ah, j'avais l'impression d'y être.
J'ai adoré.
Ah ouais, c'était incroyable. Elle était à fond.
Ouais.
Bah, clairement, on entendait la passion.
Voilà.
C'était vraiment ça. On entendait, ça transpirait la passion du jeu, la passion du sport. Mmh. Et enfin, ça, vraiment, ça faisait vivre... vraiment toutes les images, c'était incroyable. Vraiment, j'ai adoré.
Pareil, et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, il n'y a pas besoin d'être un garçon ou une fille pour apprécier un sport, il faut juste être passionné, tu vois.
Ouais,
et là, tu vois, pour moi, elle avait littéralement sa place. Et ce que je me suis dit, quand j'ai vu ça, en tant que garçon qui regarde du sport, et pourquoi on n'en a pas plus ? Pourquoi j'ai pas une femme comme ça qui va me commenter le judo, le foot, la Formule 1, etc., etc. Parce qu'en fait, elle était vraiment tellement à fond. Elle connaissait tous les prénoms de chaque athlète français. Elle a décrit tous les coups qu'il y avait. Donc du coup, j'ai compris un peu comment on fait une touche à l'escrime.
Pareil, j'y connaissais rien. Enfin, je suis pas du tout du milieu, vraiment. En plus, l'escrime, pour le coup, c'est énormément de règles, c'est très technique.
Ouais.
J'ai tout compris.
Pareil.
J'ai tout compris. C'était vraiment clair, limpide. Je me suis surprise devant ma télé à faire des... Alors que j'y connais rien.
Et moi, je criais, allez, allez. Alors, avec le prénom de la personne, parce qu'elle les a mis par leur prénom.
Ouais.
Je trouvais ça génial.
Non, vraiment,
d'ailleurs, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, si vous êtes une jeune fille, n'hésitez pas. Allez, hop, études de journaliste, il nous faut plus de gens comme ça. Hein.
Ah, carrément.
Il nous faut plus de gens qui vivent la passion, quoi. C'est fou. Autre question, tiens. Est-ce qu'il n'y aurait pas un biais inconscient qui fait que l'audience accorde plus de crédit justement à un homme lorsqu'il parle de sport, même sans réelle expertise?
Je pense qu'en fait c'est ancré avec les années, c'est ancré un peu dans la tête de tout le monde. Un homme, ça parle de sport. Un homme, comme on disait, un homme, ça transpire, ça sait de quoi ça parle, même si vraiment il y en a.
J'ai quelques noms qui me viennent à l'esprit de certains qui officient, effectivement.
Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est ancré dans l'imaginaire collectif. J'ai presque envie de dire que voilà, l'homme sait tout. L'homme sait de quoi il parle.
Ouais.
Après, comme tu disais, l'homme a souvent cet aplomb de dire les choses, même s'il n'y connaît rien.
De ouf.
Ça passe, parce qu'il y a ce côté sûr de soi. Qui font passer énormément de choses très facilement, alors que souvent il n'y a pas de fond, il y a une belle forme, du coup ça passe.
C'est ça, mais ce que tu dis, c'est vrai que nous on a cet aplomb. C'est vrai, c'est aussi ce qui se passe dans le milieu sportif. Tu vois, pour moi, on ne parle pas assez de sport féminin, mais en même temps, on n'a pas assez de consultantes, de journalistes féminines pour parler de ces sports, même si ça commence à changer, fort heureusement.
Mm-hmm.
Et du coup, effectivement, pour les filles et les petites filles, c'est peut-être difficile d'accrocher. Se lancer sur ce sujet.
Ça joue, ça joue certainement.
Parce que manque de repères, manque de modèles, etc. Alors que pour moi, le sport c'est universel, tu vois.
Ouais, s'il y a bien une chose, s'il y a bien une chose entre guillemets qui est universelle, c'est bien le sport.
Complètement.
Enfin, il n'y a pas de...
Pour moi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de genre, il n'y a rien.
Il y a, entre guillemets, un ballon.
Voilà, si c'est le foot, c'est un ballon, deux poteaux, c'est réglé.
Mais toi comme moi, on est à peu près de la même génération. À peu près.
À peu près, je suis quand même plus vieux. C'est gentil, c'est un bras joli.
Combien de matchs de foot on a fait en bas de chez soi ou en vacances où on posait les cartables pour faire des buts ou on faisait des tas de sable à la plage, tu vois,
où
on plantait les petites pelles et les seaux pour faire des cages. Et il nous fallait vraiment pas plus. Un ballon. Si c'était pas un ballon de foot, c'est pas grave, on en faisait un ballon de foot. Et c'est tout.
Mais c'est... Ouais, pour moi, le sport restera toujours universel. D'ailleurs, chers auditeurs, le sport vous appartient. Faites-en, n'hésitez pas, n'ayez pas honte. Vous avez envie de faire du sport, faites-en. Tant que vous ne vous blessez pas, tout va bien. Il ne faut pas hésiter. Là, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Il nous reste quelques minutes. Donc, première chose, je tenais à dire que si vous aimez le foot féminin, il faut savoir qu'en ce moment, il y a la Ligue des Nations qui se joue. Il y aura un match le 4 avril de l'équipe de France. L'équipe de France a joué contre, si je ne dis pas de bêtises, l'Islande. Attendez, je revérifie mes notes pour ne pas dire de bêtises. Donc, elle est dans le groupe de la Norvège, l'Islande, et je ne me souviens plus le quatrième, mais je vais vous le dire tout de suite. La Suisse, voilà. Et il y aura un France-Suisse le 4 avril, puisque là, il faut savoir, effectivement, tu vois, comme quoi ce n'est pas médiatisé, j'attendais la fin pour le dire. Mardi, il y a eu un match, il n'y a pas longtemps, 24 février, tout ça, il y a eu des matchs de l'équipe de France, et pourtant, tu vois, même moi, je ne le savais pas.
Non, je suis complètement passé à côté de l'info.
Pareil. Donc, n'hésitez pas à aller soutenir les filles pour le foot. N'hésitez pas à regarder s'il y a des clubs de foot autour de chez vous, si vous avez envie.
Il y en a de plus en plus, des clubs de foot féminins ou mixtes, parce qu'avant, il n'y avait que du masculin. Il y en a vraiment de plus en plus, il faut se renseigner. Vraiment, ça s'ouvre de plus en plus, et heureusement.
Du coup, on arrive quasiment au terme de... Il nous reste 2 minutes, à peu près. Alors, première chose. Petite recommandation, quelque chose, parce que moi j'ai des petites choses à dire aux éditeurs s'ils ont envie de suivre des gens sur les réseaux justement qui parlent de sport.
Vas-y, je t'en prie.
Ah bah merci, c'est gentil.
Vas-y, je t'en prie.
Ah voilà. Alors si vous êtes sur Twitter, il y a une journaliste que j'adore qui s'appelle Dounia Meli. Vous pouvez la trouver à Meli, M-E-S-L-I, _ Dounia. C'est une journaliste sportive qui fait du foot. Elle officie sur le sport féminin, est très active, elle est vraiment très sympa. Pour le sport engagé, vous avez Emma.Oudiou. Alors, elle, c'est une sportive engagée, je t'invite à regarder son contenu, elle fait du contenu tous les jours.
Okay.
Elle court, c'est un délire. Et en plus, elle fait vraiment des trucs vraiment top, pour le coup. Et enfin, Pied Carré Féminin. Et non, c'est pas un compte parodique, il parle vraiment du foot féminin, l'actualité du foot féminin, c'est vraiment très cool, c'est un truc que j'apprécie énormément. Voilà.
Okay.
N'hésitez pas, vous avez plein de choses, plein de contenus sur Instagram, faut absolument pas hésiter.
Ouais, il y en a de plus en plus, maintenant ça se trouve, heureusement, assez facilement sur les réseaux.
Alors, du coup, l'émission s'est bien passée ?
C'était top.
C'était cool. La régie, ça va ?
Oh, c'est bon, ça nous fait des grands pouces, c'est cool. C'est bon.
C'est bien passé. Alors, du coup, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup de votre attention, auditeurs, auditrices. On va donc se quitter, mais se revoir bientôt.
Bientôt.
Avec un autre portrait, d'autres sujets, n'hésitez pas.
Et merci à toi pour cette émission, d'avoir bossé.
Ah,
et nous avoir fait une belle émission comme ça, comme d'hab.
J'allais remercier justement les meilleurs, la régie, parce que sans eux, on n'est rien.
Il n'y aurait rien.
Merci beaucoup. Et la régie va envoyer le petit morceau, et on va se quitter tranquillement en musique. Et je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention. C'était Kat, l'homme du 92, vous étiez sur Aligre FM 93.1. Que la force soit avec vous. Faites du sport, embrassez vos proches, et vive la France.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.